Émission spéciale Expertise Galtier,
présentée par Fabrice Coustet
sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission spéciale Expertise Galtier. On va s'intéresser à la pollution des sols et l'évaluation des concessions automobiles. Alors, vous le savez, dans un contexte de ZAN, zéro artificialisation nette des sols, l'espace est de plus en plus contraint et le foncier se fait rare pour les agents économiques comme pour les pouvoirs publics. La solution passe par la construction de la ville sur la ville, en clair, utiliser au maximum les surfaces déjà artificialisées. Problème, certaines de ces friches industrielles sont polluées et nécessitent une dépollution qui est souvent coûteuse avant remise en état, remise sur le marché. Comment évaluer ces zones polluées? Quelles sont les spécificités de ces zones? Comment les traiter? À quel coût? Comment prendre en compte le cas en particulier des concessions automobiles qui, on va le voir, sont de plus en plus nombreuses à changer de main en ce moment? Eh bien, les réponses avec nos deux expertes en plateau. On est ravis d'accueillir Anne-Hélène Chevrel. Bonjour Anne-Hélène.
Bonjour.
Vous êtes directrice technique chez Galtier Évaluation. Bienvenue à vous.
Merci.
Et à vos côtés, Marie-Pierre Loisel. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Vous êtes directrice de Galtier Expertise Environnement. Bienvenue également.
Merci.
Marie-Pierre, je commence avec vous, juste pour redéfinir exactement ce que fait Expertise Galtier avant de commencer.
Oui, alors Expertise Galtier, c'est une société familiale qui va fêter ses 140 ans cette année. À la base, le métier historique est l'expertise d'assurés en cas de sinistre. Puis c'est une entreprise qui a vécu une évolution intéressante avec de la valorisation en expertise en valeur d'assurance. Et aussi un gros département aujourd'hui immobilier que représente Anne-Hélène. La filiale environnement a été créée il y a plus de 20 ans maintenant pour intégrer effectivement ces problématiques de pollution des sols dans les expertises immobilières.
Voilà, pollution des sols. Et effectivement, je le disais, on n'en a jamais entendu autant parler de cette pollution des sols avec la loi ZAN. Voilà, on essaye d'utiliser vraiment toutes les surfaces aujourd'hui. Justement, est-ce que le durcissement de ces règles qu'on a vu à propos de l'artificialisation a fait bondir la demande d'évaluation pour justement ces zones polluées?
Oui, clairement. En fait, aujourd'hui, effectivement, on se retrouve confronté à utiliser du foncier, on va dire, de l'existant avec un historique qu'on délaissait parfois au profit de terrains, on va dire, un peu plus nobles. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à utiliser ces fameuses zones qui sont déjà artificialisées avec des problématiques d'historique, puisqu'on a, selon les régions, du passé industriel qu'il faut gérer. C'est l'historique, c'est comme ça. Les pratiques étaient différentes auparavant. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à des problématiques de compatibilité des sols avec un usage, puisque c'est la méthodologie du ministère de l'Environnement qui nous impose de travailler dans ce sens, où il faut rendre compatible un état des sols, voire des eaux souterraines, avec un usage donné.
Alors justement, ces zones polluées, est-ce que ce sont toujours des friches ou quelles sont leurs spécificités?
Alors ça peut effectivement être des friches, c'est-à-dire on entend souvent par friche quelque chose, un terrain qui a eu un passé industriel et qu'on a un peu laissé à l'abandon, c'est souvent un peu l'image qu'on en a, ce qui est le cas dans certaines zones, mais effectivement on a encore beaucoup de sites à l'abandon qui n'ont pas forcément fait l'objet, on va dire, d'une cessation d'activité en bonne et due forme, pour des raisons économiques bien souvent, et puis parce que c'est plus facile d'aller s'installer ailleurs que de prendre en charge un terrain qui a un vécu.
Oui, bien sûr. Les groupes industriels, généralement, ce sont eux qui veulent s'en débarrasser. On sait que ce sont souvent des grands propriétaires fonciers.
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on assiste quand même depuis de nombreuses années à une désindustrialisation de la France. C'est une réalité sur certains secteurs, notamment de la chimie, pétrochimie et autres. Et l'industrie même lourde sur l'acier et autres. Et effectivement, c'était souvent des grandes surfaces. Et les groupes industriels aujourd'hui cherchent à s'en débarrasser et à trouver des solutions en fait, d'opportunités pour refaire quelque chose de foncier.
Alors on va rentrer dans un instant dans le détail de l'évaluation proprement dite, combien ça coûte, etc. Je donne la parole à Anne-Hélène Chevrel, donc directrice technique chez Galtier Évaluation, pour se pencher justement spécifiquement, puisque Galtier Évaluation est en pointe sur l'évaluation des concessions automobiles. Pourquoi on en parle aujourd'hui, Anne-Hélène? Il y a des bouleversements qui se font dans cette industrie?
Oui, alors c'est vraiment une industrie qui est en plein bouleversement pour beaucoup de raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons technologiques, et puis pour des raisons effectivement de place, comme disait Marie-Pierre, hein, ça se rejoint complètement. Au niveau de Galtier Evaluation, en 2023, on a fait l'expertise de 317 concessions automobiles l'année dernière.
317 en un an.
Au niveau national, en un an. Donc c'est le reflet de plusieurs choses, c'est le reflet d'un phénomène de concentration des groupes, c'est aussi le reflet d'un phénomène de besoin de financement pour ces groupes, mais c'est aussi le reflet d'une transformation en profondeur de la façon dont les groupes de distribution, mais aussi les groupes de production d'automobiles, mute en fait sur la baisse des coûts de distribution, sur la concentration des distributeurs. On voit par exemple la volonté de BMW de baisser à 20 le nombre de distributeurs sur la France entière. France entière. Ou de Stellantis de baisser de 50% ses coûts de distribution. Donc oui, il y a des très très grosses mutations et on est un peu aux premières loges pour les observer.
Ouais, je fais une parenthèse juste pour illustrer le sujet. Souvent, ces concessions automobiles, on les trouve en entrée de ville. Souvent, elles sont un petit peu regroupées. On a un peu différentes marques, mais qui se juxtaposent. Comme ça, on peut faire un petit peu son marché pour celui qui cherche un nouveau véhicule. Et c'est vrai que là aussi, ça prend beaucoup de surface. Il y en a énormément parce qu'on en trouve pratiquement dans toutes les petites, enfin peut-être pas très petites, mais moyennes villes en tout cas, et grandes villes bien évidemment.
Oui, complètement. Et ça rejoint aussi ce que disait Marie-Pierre sur la zéro artificialisation nette. Quand vous avez l'installation, la volonté d'installation d'un nouveau concessionnaire, il va falloir trouver des friches, il va falloir trouver soit des anciennes usines ou soit des anciennes concessions qu'on va pouvoir racheter pour pouvoir s'installer. Là, ce qu'on voit un petit peu, c'est les concentrations de multimarques au sein de groupes. Par exemple, je pense à Stellantis où vous avez différentes marques qui vont pouvoir être représentées sur une même concession. On voit beaucoup ce phénomène-là avec du multimarque sur des sites, ce qui permet de baisser les coûts de distribution et de proposer plus de produits en fait à ses clients.
Alors il faut dire que c'est vrai que là aussi il y a eu beaucoup de concentration ces dernières années. C'était Stellantis qui a absorbé donc Peugeot, Citroën qui a absorbé Fiat Chrysler, c'est bien ça. Oui. Donc effectivement on peut trouver plusieurs modèles, plusieurs véhicules. C'est le cas aussi chez Volkswagen. On sait qu'il y a 14, enfin Volkswagen, pardon, le groupe où il y a 14 marques différentes avec des gammes différentes également. Ça veut dire que aujourd'hui, donc vous avez été appelé, vous nous avez dit à 317 reprises l'an dernier. On continue sur le même rythme. Il y a aussi, on peut s'imaginer la pyramide des âges qui joue, c'est-à-dire peut-être des gens qui partent en retraite.
Oui, complètement. Alors, on a suite à 2023 où on a fait beaucoup, beaucoup de concessions automobiles, on a décidé de lancer un questionnaire qu'on a soumis à nos partenaires, du coup, à nos gros groupes de concessions automobiles, dont j'ai mis Courtois, GCA, enfin. Tous ces gros groupes nationaux. Et on a essayé de sortir des tendances en fait, de la façon dont ils voyaient. Parce qu'on sentait bien qu'il y avait vraiment ces phénomènes sous-jacents de mutation du secteur qu'on avait un petit peu du mal à identifier sans poser vraiment les questions frontalement. Et donc, du coup, on leur a posé ces questions.
Oui.
Et ils ont été assez gentils pour nous répondre et nous donner
un petit
peu
de questionnaire.
Et le questionnaire, c'était ça. C'était en fait 2022-2023, énormément de transactions, énormément de regroupements. Et donc, du coup, on arrive fin 2023 dans une situation où toutes les petites et moyennes surfaces ont déjà été un petit peu concentrées. Donc, le phénomène de concentration devrait se maintenir, mais dans des proportions un petit peu moins importantes, parce que les premiers coups déjà ont été faits. Mais il y a plein d'autres choses qui viennent derrière pour le secteur de l'automobile. Je pense notamment aux casses automobiles qui deviennent un vrai sujet parce que quand vous faites réparer une voiture, on oblige le réparateur à vous proposer un devis avec des pièces de seconde main. Et donc du coup, les distributeurs et les constructeurs automobiles ont la volonté de maîtriser les pièces de seconde main. Et donc du coup, il y a des actions, des coûts qui sont faits en ce moment sur les casses automobiles. Moi, j'avais jamais évalué de casse automobile avant cette année, et là depuis le début de l'année j'en ai fait 3 dans l'ouest
avec des grosses, plutôt des grosses structures,
très bien aménagées, environnementalement sécures, parce qu'il y a des énormes exigences de la DREAL pour pouvoir exploiter une casse automobile, hein. On se rend pas compte comme ça, mais c'est des aménagements de terrain qui coûtent une fortune, et oui c'est des grosses bêtes qui au niveau immobilier valent des millions d'euros.
des millions d'euros. Marie-Pierre Loisel, justement, c'est vrai que la casse un peu à la papa qu'on connaissait, cette image un peu où les carcasses s'entassent, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a des normes réglementaires environnementales très strictes.
Tout à fait, effectivement. Les casses automobiles qu'on avait chez ce qu'on appelait auparavant les ferrailleurs, ça c'est terminé. En tout cas, réglementairement, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de prestataires du monde du déchet qui sont tournés vers la dépollution des véhicules, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce sont des installations, donc des installations classées, qui répondent à une réglementation environnementale stricte, notamment en termes de rejet et autres, puisque rien ne doit pouvoir sortir, en fait, sans être traité ou en tout cas maîtrisé. Effectivement, on a ces problématiques de pollution des sols, puisqu'avant, les véhicules étaient démontés souvent sur un terrain à même le sol, donc avec, tous les fluides qui pouvaient s'infiltrer. Aujourd'hui, tout est récupéré, tout est concentré, et on gère ça d'une façon beaucoup plus propre, en tout cas.
Alors justement, ces terrains, que ce soit les concessions, comment on les évalue, comment ça se passe au niveau de la valorisation, justement? Vous voulez répondre?
Des terrains?
Oui, ou des terrains. Vous parliez justement du foncier. On évalue à partir de l'emprise foncière. On se dit, bah tiens, parce qu'il faut évidemment des coûts de dépollution. Peut-être on se dit, sur un grand terrain, on peut imaginer une ancienne concession. En plus, on le disait, souvent bien placée, entrée de ville. Ça peut faire des logements, pourquoi pas. Ça peut faire d'autres bâtiments.
Bah, comme le disait Marie-Pierre, en fonction de l'usage que vous voulez donner à votre terrain à bâtir, on va avoir des exigences de dépollution qui vont être différentes. Si vous voulez mettre une crèche ou si vous voulez mettre une concession automobile, on va pas vous demander de dépolluer de la même façon.
Bien sûr.
Et alors, d'où l'avantage de faire appel à des experts qui ont une synergie au sein du groupe comme nous, c'est-à-dire que nous, on va donner une valeur vénale de l'actif et généralement vous allez avoir des réserves dans le rapport en disant sous réserve qu'il n'y a pas de dépollution à faire et c'est là où intervient G2E derrière nous, c'est-à-dire que nous on dit par exemple le terrain vaut 1 million d'euros, je dis n'importe quoi et on va dire mais sous réserve qu'il faille dépolluer en faisant un bilan promoteur et là Marie-Pierre va nous dire derrière oui mais bon il y en a pour 300 000 euros de dépollution donc que ça soit dans le cadre d'une négociation avec un vendeur ou que ça soit dans le cadre d'un financement il est aujourd'hui, je pense qu'on peut pas faire l'économie en fait de faire cette recherche de phase 1 ou de phase 2, c'est-à-dire en phase 1 on fait juste l'historique et on regarde si potentiellement il y a eu une activité qui aurait pu être polluante. Et en phase 2, mais je vais peut-être laisser Marie-Pierre prendre la main sur le sujet parce qu'elle le maîtrise beaucoup mieux, mais on va aller faire des recherches beaucoup plus importantes qui vont aller jusqu'au carottage.
Voilà. Alors justement, comment on évalue ce coût de la pollution et du coup de la dépollution?
Effectivement, donc pour évaluer les coûts, il faut avoir la connaissance. Donc ça passe forcément par une étape d'investigation de terrain. Donc comme disait Hélène, une première phase en fait où on reconstitue l'historique et on identifie les sources de pollution et qui nous permet de dire si oui ou non, effectivement, on doit aller plus loin. Parce qu'il arrive qu'on travaille sur des terrains où il ne s'est rien passé. Et quand on a un doute, eh bien, on passe à une phase d'investigation de terrain où on va effectivement faire des carottages de sol et analyser les sols pour savoir de quoi on parle, en fait.
D'accord. Qu'est-ce qu'on peut trouver, justement?
Alors, sur la problématique pure on va dire de l'entretien des automobiles, c'est plutôt des problématiques hydrocarbures, en fait. Soit des carburants, des huiles, des choses comme ça. Et le but, en fait, est de trouver la bonne technique à un coût économiquement acceptable, qui pourra garantir en fait une compatibilité d'usage dans le futur. Donc, comme le disait Anne-Hélène, on n'a pas les mêmes niveaux de dépollution, les mêmes exigences. Bien si sûr. On fait effectivement des habitations ou des jardins avec potentiellement de la présence d'enfants, si on fait une activité commerciale ou industrielle.
D'accord. La dépollution, est-ce que c'est coûteux? Comment on calcule?
Oui, alors enfin, c'est coûteux. Tout dépend de quoi on parle, effectivement. Aujourd'hui, on a une évolution de la réglementation va dans le sens d'éviter de faire du transfert de pollution. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une pollution donnée, on pouvait faire de l'excavation de terre qu'on allait stocker en centre de stockage de déchets. Finalement, en fonction des concentrations, ça n'apporte pas forcément grand-chose, si ce n'est d'avoir des terres qui circulent sur la route. Aujourd'hui, on traite vraiment ce qu'on appelle les spots de pollution, donc les zones les plus concentrées, et on surveille le reste. Voilà.
D'accord.
On accepte de laisser certaines teneurs... Alors, en fonction de comment dire, de, d'une maîtrise quand même, hein, du transfert. Mais s'il n'y a pas de risque de transfert de la pollution, on va dire peut-être par des sols.
Il vaut mieux finalement laisser la pollution où elle est.
Oui, parce qu'à partir du moment où on peut voilà, maîtriser et surveiller, ça vaut mieux que de tout transférer sans savoir.
Oui, d'excaver des milliers
on fait
de
qu'un
mètres cubes
en fait.
De terre.
Voilà, exactement.
Cher,
on procédait beaucoup à des transferts auparavant, on est un peu revenu.
Ouais, pour dire c'est propre, mais finalement on allait polluer ailleurs.
Voilà, c'est ça. Donc on est un peu revenu là-dessus et là on traite vraiment les spots et il existe même des solutions de traitement in situ où on n'est pas obligé de sortir des terres, on peut traiter sur place.
D'accord. Traitement chimique, comment on
fait? Oui, alors ça peut être, des biopiles, des traitements en fait par bactéries, hein, par exemple. Ça peut être des solutions de venting. Il y a tout un tas de solutions qui font qu'on peut traiter. La difficulté reste toujours le temps, puisque on est souvent sur des délais contraints. Oui. Et qu'il existe aussi, on entend parler aussi beaucoup de bioremédiation, de solutions un peu plus, entre guillemets, environnementales. Totalement propre et correct, mais qui nécessite beaucoup plus de temps.
Y a-t-il des certifications ou des labels, justement, environnementaux sur cette activité?
Alors, il faut savoir que tout notre métier, nous, de prestataire en cité sol polluée, est un métier qui est couvert par une norme, hein, ce qu'on appelle la norme NFX 31620. La norme NFX 31620.
Voilà,
qui est la norme qui concerne les prestataires en cité sol polluée. Nous sommes certifiés chez Galtier Expertise Environnement, comme d'autres concurrents bureaux d'études, où aujourd'hui, effectivement, la réglementation. On parlait tout à l'heure des friches. Quand on est en cessation d'activité, aujourd'hui, ne peuvent intervenir en cessation d'activité que des bureaux d'études certifiés comme les nôtres. Et la réglementation l'impose. Cette certification, elle a été faite, édictée par le ministère et poussée par le ministère de l'Environnement pour... on n'est pas sur une profession réglementée, mais pour effectivement, quelque part, donner des bonnes pratiques parmi tous les prestataires en cité sol polluée.
D'accord. Je reviens sur ces concessions automobiles. Vous nous avez dit que les changements de politique, on va dire, commerciale, de distribution, font que ça va continuer. Vous allez peut-être un peu ralentir en 2024, mais les perspectives pour le groupe sont plutôt très bonnes, correctes pour cette année et les suivantes.
Oui, complètement. Et puis, il y a d'autres phénomènes. Hein, c'est-à-dire que comme on manque un petit peu de place et qu'effectivement, on a envie de dégager du chiffre dans ces zones commerciales dont vous parliez d'entrée de ville, ce qu'on va faire, c'est on va délocaliser les carrosseries. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez la carrosserie au sein de la concession. Maintenant, quand on construit une nouvelle concession, on n'a plus de carrosserie ou alors on a juste un atelier minute. Et on va délocaliser en fond de zone et donc avec un foncier qui coûte beaucoup moins cher la carrosserie. Il y a ce phénomène-là. Et donc, du coup, pour nous, ça fait du travail parce qu'il va falloir évaluer ces bâtiments qu'on va acheter pour y mettre la carrosserie. Encore une fois, il y a les casses automobiles. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent sur le monde des concessionnaires et qui nous permettent, nous, d'évaluer. Et puis, comme plus il y a de transactions, plus ça nous fait des références de marché et plus on est pointu. Donc, nous, on est heureux.
Ouais. Et c'est France entière. Hein.
C'est France entière. Ouais. On a 7 implantations locales, donc un petit peu partout en France. Et on fait France entière, oui.
Voilà, on en sait un petit peu plus effectivement sur cette activité. Donc on a parlé des concessions automobiles, vous avez dit des casses, les carrosseries, vous les évoquez également, tout ce qui est peinture aussi, hein, c'est très très, maintenant il y a une récupération, il y a un recyclage, c'est très contraignant et du coup ça devient cher. Alors est-ce que c'est inflationniste tout ça? Qui veut répondre à cette question? Parce que c'est vrai que toutes ces expertises, alors tant mieux pour votre groupe, mais on a l'impression que c'est des choses avec l'empilement des normes, des règlements, qui peut-être n'existaient pas encore il y a 15-20 ans, de manière moins importante peut-être.
Alors c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, si je parle de la pollution des sols, qui est le sujet que je maîtrise, on s'intéressait beaucoup moins à ce genre de sujet. Pourquoi? Enfin, pourquoi? Parce que c'est une évolution aussi, je pense. Aujourd'hui, faire un diagnostic de pollution des sols dans une session, c'est une sécurisation de la transaction, en fait. C'est de savoir de quoi on parle. Oui. Il est important, à un instant T, c'est pas parce qu'on a identifié une problématique que tout de suite, c'est dramatique, la pollution des sols dans le... Nous, chez Expertise Galtier, on se rend compte qu'en fait, c'est un levier de négociation. C'est pas une soustraction, c'est rarement une soustraction aussi simple d'une Bien valeur que nos collègues experts immobiliers nous donnent, mais c'est un levier de négociation. Parce que là, on parle des concessions, les groupes, ils ont intérêt à être présents sur telle ville, c'est une vitrine, et ils sont attachés à leur secteur. Donc, c'est un levier de négociation. Aujourd'hui, ça permet d'être marqué, d'être tracé, ce qui n'était pas le cas auparavant dans des actes, hein, dans des actes notariés, des actes de cession, des actes de vente. Voilà, c'est à un moment donné, on établit un état initial. Ce n'est pas pour autant que derrière, ça génère des problématiques et des incompatibilités.
Et puis forcément. Au moins, on a le prix, la transaction
Exactement.
Est fixée, on sait où on en est, on a cet état des lieux. Et donc, dans une prochaine transmission, ça sera beaucoup plus simple. Et ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur ces concessions automobiles voilà, qui se transfèrent. On a l'impression que voilà, c'était un monde en transformation, en tout cas, l'automobile avec l'arrivée de l'électrique, avec une distribution qui change totalement. On verra demain ce qu'il advient, comment on continuera en tout cas dans la mobilité. En tout cas, un grand merci à nos deux expertes en plateau, Anne-Hélène Chevret, je rappelle que vous êtes directrice technique Galtier Évaluation, et Marie-Pierre Loisel, directrice Galtier Expertise Environnement. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, une émission spéciale Galtier. À très bientôt.
Émission spéciale Expertise Galtier,
présentée par Fabrice Coustet
sur Radio Immo.